Dans le contexte actuel qu'on voit entre l'Ukraine et la Russie, on peut constater que ceux comme l'OTAN ou les États-Unis qui se disent alliés de l'Ukraine n'ont pas l'air de se montrer très présents en tant qu'alliés à Kiev. C'est ce qui en sort des propos tenus par le président ukrainien. Mais ce comportement se voit à travers le monde et surtout à travers l'Afrique, et beaucoup se demandent si le Mali n'avait pas raison de vouloir se détacher des forces de l'Union européenne. Ce détachement du Mali de l'OTAN, et plus précisément de la France, est une pilule très difficile à avaler pour l'Occident, d'où l'article de RFI qui met en cause le silence des autorités maliennes sur les événements en Ukraine. Aucune réaction au Mali sur l'intervention militaire russe en Ukraine, alors que la Russie est devenue ces derniers mois le nouvel allié stratégique militaire de Bamako. Au-delà des autorités, comment les défenseurs de la souveraineté nationale du Mali perçoivent-ils l'invasion en cours de l'Ukraine par la Russie? Le mouvement Yerevolo, debout sur les remparts, qui soutient les autorités de transition, est parmi les premiers à avoir demandé puis applaudi l'implication de la Russie au Mali. Pour son porte-parole, Rissa Meminta, le fait que la Russie décide d'attaquer l'Ukraine ne change rien. Ça ne remet pas en cause ce qu'il se passe entre le Mali et la Russie, affirme Rissa Meminta, parce que c'est une collaboration franche où l'on ne cache rien. Les Occidentaux se cachent derrière l'Ukraine, se cachent derrière plusieurs pays pour atteindre la Russie. Nous, nous ne jugeons pas la Russie à travers ce que nous apprenons via les médias. Nous ne jugeons pas la Russie à travers ce qu'il se passe entre la Russie et d'autres pays. Nous jugeons la Russie à travers ce qu'il se passe entre la Russie et le Mali. Effectivement, le Mali a choisi son camp et c'est le camp de l'Est qu'il a choisi. Le Mali a compris durant plus de 8 ans que la présence d'un pays comme la France sur son sol n'est qu'égale à déstabilisation, insécurité et affaiblissement des forces armées. Depuis plusieurs mois maintenant, les exactions de la France contre le Mali, et même contre plusieurs autres pays d'Afrique, sont mises au grand jour et le rôle trouble de Paris ne trompe plus personne au Mali. Mais avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine, où les soi-disant alliés de Zelensky ne font rien que de publier des communiqués pour condamner les opérations militaires de la Russie dans ce pays, il est clair que le Mali est plus sûr que jamais de son choix. La France est inquiète et elle a raison de l'être. Ce qui fait peur au camp occidental est que les Maliens en tirent le son et en fassent une raison pour poursuivre leur lutte jusqu'à la libération totale du Sahel des mains des occupants occidentaux. Jusqu'à présent, la population malienne a déjoué les projets de démembrement du pays. Le penchant du Mali vers l'Est et le soutien qu'apporte son peuple à cette décision n'est qu'un début pour pousser la France vers la porte de sortie du continent. Au Tchad, les médias font état du remaniement du gouvernement et nouveau gouverneur à Ouaddaï. Dans la liste de ministres communiquée par le porte-parole du Conseil militaire de transition, le général Azem Bermando, d'importants changements interviennent au ministère de la Sécurité publique, du Plan et du Pétrole. Abdoulaye Sabré Fadou, l'ancien ministre de la Santé, et Issa Doubraine, ex-ministre du Plan, comptés parmi les plus anciens membres du gouvernement, ils quittent l'équipe ce vendredi. S'ajoutent parmi les départs importants celui du ministre de la Sécurité publique, Souleymane Abakar Adoum, qui a échappé à une tentative d'assassinat il y a 2 semaines. Idriss Dokoni Adiker, un officier ancien directeur général de la police, lui succède. Mais la plus grosse des surprises est le retour de Gerasem le Bajamil à la tête du ministère du Pétrole. Ancien titulaire du poste, il était poursuivi depuis septembre 2020 pour des détournements présumés. Ce vendredi midi, la Cour suprême l'a définitivement blanchi et ce vendredi soir, il retrouve le poste qu'il avait quitté il y a 4 ans. Le même jour, un nouveau gouverneur a pris ses fonctions à Oudaï, Ibrahim Ibn Oumar, le fils de l'opposant disparu en 2008. Le sultan et les chefs de canton de Bani Alba sont toujours suspendus. Des manifestations avaient éclaté fin janvier pour demander l'annulation de la cérémonie d'intronisation d'un chef de canton de Bani Alba. La répression de ces manifestations a causé la mort de moins 20 personnes à Abéché, selon les associations de défense des droits de l'homme. Évidemment, le pétrole, ce secteur tant stratégique, est touché par cette purge. D'ailleurs, c'était en juin dernier que le camp occidental avait tenté de paralyser ce secteur à travers une grève du personnel ExxonMobil qui visait clairement la réduction de la production journalière du Tchad, estimée à 120 000 barils jour. Sur le plan local, le départ de la compagnie américaine qui refusait de verser leur indemnité aux salariés tentait de léser des centaines de familles qui sont employées, pour certains depuis bientôt 20 ans. Mais ce plan ne s'est pas arrêté là et en nommant un ancien détourneur de fonds au sein de ce ministère, le clan occidental vise pire. C'est par étapes que le processus de destruction de la souveraineté du Tchad semble avancer. Comme on pourrait bien voir, le gouvernement de transition, au lieu de réunir les différentes fractions tchadiennes autour d'un ordre de débat national, a plutôt opté pour la désunion de la scène politique du pays et de préparer le terrain à ce qui ressemble fort à un ordre de jour tchadien décidé à l'extérieur. Après avoir tenté d'expurger l'armée tchadienne, l'une des plus puissantes du Sahel avec ses officiers militaires, qui ont fait échec aux terroristes takfiristes liés aux agences de renseignement occidentaux, c'est au tour de la population d'être directement visée par cette purge. Que ce soit au Tchad ou dans les autres pays du Sahel, les populations restent soudées et savent qu'elles n'ont pas besoin d'avoir un tuteur comme la France, mais qu'elles ont besoin d'avoir un pays souverain, intègre et indépendant. Les médias mainstream évoquent l'enlèvement de 5 travailleurs humanitaires dans la nuit du 24 au 25 février à Fotokol, dans l'extrême nord du Cameroun. Mais étaient-ils réellement des travailleurs humanitaires ou plutôt des agents de services occidentaux déguisés sous le nom de MSF? Luc Michel, géopoliticien, nous en dit plus.
Ce qui est en cours, c'est la déstabilisation du Cameroun. En août 2014, il y a le sommet USA-African Leaders à Washington. Et Obama et Biden, son vice-président, décident de lancer ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est-à-dire la version noire du printemps africain. L'une des cibles désignées, c'est Paul Biya au Cameroun. Nous sommes en 2015, les élections présidentielles sont prévues en 2018, mais est lancé le slogan en 2015, donc Paul Biya dégage, et on tente une révolution de couleur. Celle-ci est appuyée par le directeur Afrique de vitrine légale de la CIA, la ND, qui est un Camerounais naturalisé américain, Christopher Fonumoi. Cette révolution de couleur échoue et immédiatement le terrorisme arrive. Le terrorisme arrive en 3 vagues. Il y a tout d'abord Boko Haram dans le Nozo, puis il y a les Amazoniens également dans le Nozo, et ensuite maintenant, il y a les Américains qui lancent en 2021 ce qu'on a appelé lors d'une conférence nationale les Kanouris. C'est une ethnie minoritaire musulmane qui est établie au Cameroun, mais aussi dans tous les pays riverains du lac Tchad. Et les Américains veulent faire du Kanouri les Ouïghours du Cameroun. La parraine de tout cela, depuis les années 2015, c'est une certaine Kamala Harris qui maintenant est une des adjointes de George Soros et de son fils Alexander Soros. C'est maintenant la vice-présidente et la véritable patronne de l'administration Biden. Les ONG américaines, les ONG de George Soros comme Amnesty International, comme le Freedom House, comme bien entendu Human Rights Watch et les autres ONG, ce sont les participants, les complices du terrorisme au Cameroun. Ils servent à justifier médiatiquement l'arrivée de ces terroristes. Ces terroristes, ils sont appuyés au plus haut point. Les gens, notamment les Amazoniens, c'est-à-dire un mouvement terroriste, ils ont été reçus grâce à l'intermédiaire de Soros, à la Common House du Canada, le Parlement canadien, et au Congrès des États-Unis, où ils ont été salués comme les représentants du peuple amazonien. C'est ça qu'il faut savoir. C'est un mouvement de déstabilisation profonde. Et évidemment, vous avez raison de poser la question. Les humanitaires, toutes ces ONG bidons, ce sont évidemment les appuis de ce terrorisme, les appuis médiatiques et les appuis évidemment auprès des institutions parlementaires occidentales. L'alliance du temps du vivant du maréchal Déby, ils ont contenu les terroristes amazoniens et ils ont contenu les terrorismes, évidemment, de Boko Haram au Nozo. Le maréchal Idriss Déby, donc quelques mois avant de mourir, il a lancé une grande opération de nettoyage des îles et des rives du lac Tchad. Mais malheureusement, depuis qu'il est tombé, l'armée camerounaise est seule face à l'ennemi. Il faut rappeler également quelque chose, évidemment, c'est que le général Bozizé, avec l'appui d'un général à la retraite français qui dirige une firme de sécurité française, il recrute des terroristes aussi bien en Centrafrique qu'au Tchad et au Gabon, sans viser le Cameroun et sans viser le régime du général Obiang Nguema Bassongo, du président donc de Guinée équatoriale, dont il y aura une élection décisive en 2023. Ils ont lancé un front de libération du Cameroun, qui est un mouvement terroriste et qui est appuyé par Bozizé et les Français dans les forêts du Gabon et à la frontière du Cameroun. C'est le même mouvement évidemment terroriste. On voit donc que le terrorisme encadré par les Occidentaux et soutenu par les parlements occidentaux, il frappe tous les pays de la région du lac.
Le Mali a passé ce mercredi 23 février 2022 le témoin de la présidence de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, OADA, à la République du Niger pour l'exercice 2022. Le passage de témoin s'est déroulé entre le ministre nigérien de la Justice, Ikta Abdoulaye, par ailleurs président entrant du Conseil des ministres des pays membres, et le secrétaire permanent de l'organisation, M. Emmanuel Sibidi Darankou, représentant le président sortant du dit Conseil, le ministre de la Justice du Mali, Mamadou Kassougué. C'était au cours d'une cérémonie tenue à Niamey sous l'autorité du premier ministre nigérien, Oumoudou Mamadou, à laquelle le ministre malien a participé par vidéoconférence. C'est la deuxième fois, rappelle-t-on, que le Niger préside cette organisation continentale. La première fois, c'était en 2007. En recevant le drapeau de l'OADA et le marteau de l'impérium, symbolisant le passage de témoins, le ministre nigérien de la Justice a dévoilé la priorité de son pays pour le mandat 2022 de l'OADA. Longue de 752 km et électrifiée, la voie ferrée Éthiopie-Djibouti réduit le temps de transport des marchandises de 3 jours à moins de 20 heures et a diminué les coûts de transport de moins un tiers. Elle est stratégique pour l'Éthiopie, pays de 115 millions d'habitants sans accès à la mer, dont une grande partie des échanges transite par le port de Djibouti. Pour les passagers, le temps de trajet est de 10 heures entre la capitale d'Éthiopie Addis Abeba et celle de Djibouti. Au cours d'un séminaire organisé lundi sur le thème des infrastructures ferroviaires, des responsables et des experts indépendants ont discuté de la manière dont la première ligne ferroviaire transfrontalière entièrement électrifiée d'Afrique avait contribué à l'intégration régionale. Ce chemin de fer transnational long de 752 km, qui constitue l'un des projets phares de l'initiative La Ceinture à la Route, a démontré la détermination des pays africains à stimuler le libre-échange continental en améliorant la connectivité des infrastructures intra-africaines, a indiqué Dagmawit Mogg, ministre éthiopien des Transports et de la Logistique. La Croix-Rouge chinoise a remis vendredi une enveloppe financière de 50 000 dollars, soit 28 900 francs CFA, à la Croix-Rouge burkinabé pour l'appuyer dans la prise en charge des victimes de l'explosion qui a fait lundi plus de 60 morts sur le site d'orpaillage de Gongombrio, dans le sud-ouest du Burkina, a-t-on appris de sources diplomatiques. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso, la cérémonie de remise de ce don, fixée dans la matinée du vendredi, a connu la présence de l'ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Li Jian, représentant la Croix-Rouge chinoise, Hassan Tamboura, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. M. Lee a exprimé sa compassion en faveur des victimes du drame des explosions. Il a déclaré que la Chine et le Burkina Faso mènent tous deux le même combat, celui pour une population à l'abri du danger et en bonne santé. En ce qui concerne le partenariat, il a noté que les deux pays redoubleront assez d'efforts pour que les peuples ressentent davantage les fruits de cette relation d'amitié. Au cours des 5 dernières années, une dizaine de pays africains ont basculé sur l'ultra haut débit mobile, avec la demande en connectivité à forte capacité de plus en plus sollicitée sur le marché. Ce nombre s'annonce beaucoup plus important d'ici 2025. La Côte d'Ivoire va mettre en service la 5G en 2023. Kamvoli Kagou Bidé, le directeur des affaires juridiques et de la coopération internationale du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, a fait cette annonce mardi 22 février 2022 lors de la tribune d'échange « Tout savoir sur » initiée par le Centre d'information et de communication du gouvernement. Il a indiqué que le gouvernement a déjà adopté la feuille de route pour le déploiement de ces technologies mobiles. La mise en service de la 5G en Côte d'Ivoire devrait permettre de soutenir la transformation numérique accélérée qu'a suscité la pandémie mondiale de COVID-19 depuis 2020, la technologie offrant plus d'opportunités d'utilisation pour les entreprises exerçant dans tous les domaines d'activité.